Alors, depuis quelques semaines, on suit l'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, bien évidemment, mais aussi autour d'une discussion très brûlante sur la question des dons spirituels, de la vie spirituelle. Et franchement, on a vu combien c'était d'actualité. On vit dans un monde où tout se montre, où tout s'exhibe, on pourrait dire, où on veut montrer les performances, nos succès, nos réussites, nos compétences, nos influences. On admire ce qui est beau, ce qui est clinquant, ce qui est brillant. On aime ce qui parle bien. On aime la vie des gens qui est bien remplie, les gens qui brillent sous les projecteurs, ceux qui ont une vie cool et qui font plein de choses. Le nombre de fois où je suis en complexe face à certains suivant leur activité ou ce qu'ils sont capables de faire, et moi je dis... Mais même dans l'Église, on n'est pas très loin de mettre parfois des choses au-dessus. On admire ceux qui sont éloquents. On admire ceux qui sont le plus charismatiques, ceux qui sont le plus... qui portent le plus de choses, ceux qui font bouger le monde. Et si on se trompait de combat? C'est un peu la réflexion que Paul. Et si l'essentiel, c'était pas du tout ça? Ce qui brille, ce qui est grand, ce qui est fort. Et c'est exactement ce que Paul appuie depuis quelques textes. On est au cœur de ces chapitres, entre le chapitre 12 et 14 de la lettre aux Corinthiens. C'est une église qui est fascinée par le beau, le visible, par les dons spirituels. Et Paul rappelle l'essentiel, dans le chapitre qu'on va voir, comme un cri de son cœur, un stop, un recentrage. Entre talent et manifestation spectaculaire, Paul nous dit, et c'est le titre que j'ai donné ce matin, le plus grand, c'est l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, ou à vos carnets, si vous avez vos carnets, dans ce chapitre 13, très connu, mais qui fait l'articulation entre le chapitre 12 et 14. Je lis. « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Sacré texte, hein ? Connu. Imaginez-vous une équipe de foot où tous les joueurs sont des attaquants. Ou un orchestre, je l'évoquais cette image de l'orchestre les dimanches précédents, où chaque musicien joue plus fort que les autres pour se faire entendre. C'est un peu ce qui se passait à Corinthe. Et c'est ce que Paul vient recadrer. Vous vous souvenez, dans le chapitre 12, Paul nous a montré une vérité qui était magnifique, qui était puissante. Par le Saint-Esprit, par l'œuvre de Dieu, Dieu nous unit les uns aux autres, unit les croyants en une église, dans un seul corps, une unité, mais il donne des dons variés, différents, utiles, puissants, mais surtout complémentaires, pour qu'on avance ensemble, pour qu'on s'édifie mutuellement, pour qu'on s'encourage, pour qu'on reçoive de la part de Dieu pour le bien de tous, qu'on fasse briller ensemble le nom de Jésus, lui rendre gloire. C'est pas un concours, c'est pas une vitrine, mais c'est une collaboration ensemble, unie, dans notre diversité, orchestrée par Dieu. Mais voilà, les chrétiens ont glissé de Corinthe. Dans leur zèle, ils ont commencé à classer les personnes, à classer les dons, à mettre en avant certains plutôt qu'à d'autres, à mettre en avant ceux qui impressionnent, ceux qui se voient, ceux qui font du bruit. Ils ont valorisé l'impressionnant, le visible, le spectaculaire. Je crois qu'on touche un problème hein, qu'on connaît tous. Alors comprendre que l'Église est un corps uni, qu'on ait une diversité, qu'on a une diversité de caractères, de dons, que Dieu la donne, on peut le comprendre. On peut le comprendre. La difficulté, c'est quoi? C'est de le vivre. C'est de le vivre. On a du mal à le vivre. Le vivre, c'est autre chose. C'est ça qui est compliqué. Mettre en pratique qu'on est une église unie, qu'on a une diversité, c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Week-end précédent, lundi dans la journée, j'étais amené à nettoyer les abris où on logeait les jeunes. Pendant le congrès, on m'a donné une équipe différente. Il y avait des jeunes étudiants de l'Institut public. C'était la fin du congrès, on était fatigués. Oui, il y avait la diversité. Mais travailler ensemble, il y en a qui ne savaient pas tenir correctement le balai, etc. Alors là, j'ai agi, je mettais un peu de pression. Mais est-ce que j'ai agi avec amour? Oui, on comprend qu'on est différents, mais de devoir travailler ensemble, œuvrer dans le même objectif, c'est pas facile. Et c'est pour cela que Paul continue avec ce chapitre 13. Il nous montre ce qui fait tenir tout cela ensemble. Il nous montre ce qui doit être le lien. Ce qui porte la mission, ce qui relie les dons, ce qui façonne notre vie ensemble. Et ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. Je disais, c'est probablement un des passages les plus connus de la Bible, mais le plus difficile à vivre. Le plus difficile à pratiquer, y compris dans l'Église. Alors, c'est pas juste un joli texte pour un mariage. En fait, c'est même sorti du contexte de l'utiliser pour un mariage. Parce que là, dans ce passage, on est en plein cœur d'un conflit dans l'Église sur les dons spirituels. Entre le chapitre 12, 13 et 14, il y a des conflits, on se compare, etc. Et ce chapitre 13 qui est là, comme une belle parenthèse, comme une pierre précieuse au sommet, c'est la réponse, la solution au problème de l'Église. Vous vous rappelez comment Paul il a terminé, chapitre 12, « Aspirez aux dons les meilleurs, mais je vais vous montrer » encore la voie par excellence, l'amour, chapitre 13. La voie qui surpasse tout. Les Corinthiens avaient glissé, avaient mis des choses de façon sur un piédestal, et ça, c'est une preuve de spiritualité, ça, c'est une preuve de maturité. Et je crois que chaque église, y compris nous, on a tendance à mettre des choses, ça, c'est bien, ça, c'est ce qui doit, ça, c'est spirituel. Mais Paul nous donne le vrai test, la vraie mesure d'une église qui est spirituelle. Le critère qui doit nous distinguer, c'est l'amour. Alors ce matin, je vous propose de découvrir ensemble trois vérités puissantes sur l'amour qui apparaissent dans ce texte. Et je résume ce passage ce matin. L'amour, c'est le chemin par excellence, parce qu'il vient de Dieu lui-même. Il donne sens à nos dons, transforme nos relations, et ne peut naître que dans un cœur touché par l'Évangile. L'amour est le chemin par excellence. Premier élément qu'on voit, c'est « Sans amour, tout s'écroule ». C'est les versets 1 à 3. « Sans amour, tout s'écroule ». Paul met en lumière que sans l'amour, les plus grands actes, tout ce qu'on pourrait faire, perdent toute valeur. Et vous l'avez entendu, c'est pas juste un peu, mais c'est tout. Avant de juger les Corinthiens, on pourrait se dire, je dois reconnaître que moi aussi, il m'est arrivé de faire des choses dans l'église, auprès des miens, auprès de mon épouse, sans amour, par habitude, par pression, par caractère, juste pour bien faire ou pour répondre aux critiques. Mais qu'est-ce que cela nous apporte? bien du vide. Peut-être que tu connais ça aussi, hein. Tu sers, tu t'investis, mais ton cœur n'est plus vraiment là. Ton cœur n'est plus vraiment là. Et c'est ce que Paul ici nous parle. Paul souligne la nécessité de l'amour dans la vie chrétienne. Et c'est le sens de ses premières phrases, hein. Il est simple, ces trois premières phrases, hein. Les dons spirituels, aussi impressionnants qu'ils pourraient être, ils perdent toute valeur si on ne les exerce pas avec amour. Sans amour, ça ne vaut rien. L'amour ne remplace pas les dons sont nécessaires, mais il doit en être la motivation. L'amour est indispensable. Et Paul met en contraste la préoccupation des Corinthiens avec celle du message de Dieu de mettre l'amour. Les Corinthiens cherchaient des preuves visibles, spectaculaires, pour prouver une spiritualité. Mais pour Paul, l'homme spirituel, comme il dira dans Galates, c'est une foi qui agit par amour. Pourquoi ça ne vaut rien ? Pourquoi ça ne vaut rien ? Parce que si c'est pas l'amour qui te pousse à faire ces choses-là, à agir envers notre prochain, c'est autre chose qui te pousse. Peut-être une mauvaise motivation, ou une qui est défaillante, une qui ne s'appuie pas sur l'évangile. Les dons ne sont pas un bon repère pour mesurer notre maturité spirituelle. Si on fait ces choses qui sont bonnes, mais égoïstement, pour être bien vu, pour être vu, pour être reconnu, pour faire avancer ma tribu, mon bien, me considérer comme meilleur que les autres, ça ne vaut rien. Si je donne de l'argent à un pauvre pour avoir ma place au paradis, je ne suis pas en train d'aimer les pauvres. Si j'obéis aux commandements pour pouvoir dire « Hey, regardez ce que je sais faire, la manière dont je vis avec le Seigneur. » Si ça, c'est ma motivation, c'est pas bon. Je suis pas en train d'aimer Dieu, je suis en train de faire pharisien. L'amour est différent. L'amour devrait être notre motivation en soi, une fin en soi. L'amour est la racine, la fontaine, la source, le fondement de ce qui doit produire dans notre vie les uns avec les autres. Vous l'avez peut-être vu, mais Paul passe en revue quatre domaines de compétences de la vie chrétienne. Et sans surprise, il commence par celui qui est le plus évident dans cette église. Premièrement, les prouesses de la parole. Et sans amour, c'est du vacarme, ça ne sert à rien. Vous êtes fiers de vos dons spectaculaires. Vous parlez en langue, vous prophétisez, vous comprenez des mystères, vous prêchez. Mais sans amour, ce n'est que du bruit, du vent. Ça ne sert à rien. Juste du cling-cling, un bruit qui tape peut-être sur les nerfs, mais qui touche pas les cœurs. On peut impressionner les gens par des mots. Mais Dieu n'est pas impressionné par nos talents. Il cherche notre cœur. On peut avoir dans l'église un super groupe de louanges, on peut être reconnaissant. On peut avoir une prédication brillante, un programme jeunesse qui claque flambeau au cul des enfants. Mais si dans les couloirs de l'église on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas s'encourager, on ne sait pas se pardonner, on ne sait pas s'aimer, on ne sait pas s'épauler, Dieu dit ça ne vaut rien. C'est comme organiser un festin et oublier d'inviter les gens. L'essentiel manque. La parole. Paul démontre aussi la connaissance. La connaissance sans amour, c'est de l'arrogance. Je ne suis rien. Vous savez, les Corinthiens, on l'a déjà dit de nombreuses fois, les Corinthiens, c'était des intellectuels, des gens cultivés qui aimaient discuter, débattre, impressionner. Paul ne dit pas « vous ne faites rien », mais ça ne sert à rien. Et vous n'êtes rien. Tu peux avoir une tête bien pleine, mais un cœur profondément vide. Et c'est malheureux, hein, on constate souvent parfois, y compris chez nous dans l'église, entre chrétiens, on peut avoir de grandes connaissances sur la parole de Dieu et les utiliser pour écraser, démolir, se comparer. On peut avoir la connaissance, mais sans amour, ça ne sert à rien. Paul va encore plus loin, hein. Tu peux avoir une foi spectaculaire. Sans amour, ça ne vaut rien, c'est inutile. Vous l'avez vu, hein, pour faire déplacer les montagnes, ça ne sert à rien. Parce que la vraie foi ne cherche pas à épater, à écraser, elle cherche à aimer. Tu peux croire, tu peux être fort, très fort, tu peux déplacer des montagnes, mais si ta foi n'est pas portée par l'amour, elle n'est pas selon le cœur de Dieu, elle est vide. La foi dans les rapports avec Dieu, dans les rapports avec les autres, si elle n'est pas l'expression d'un amour pour Dieu et les autres, Dieu n'est pas ému par notre performance. Il est touché par notre compassion, par notre amour. Et finalement, quatrièmement, dans ces trois versets, Paul sort la carte choc. Même les plus grands sacrifices, même les sacrifices ultimes, sans amour, sont inutiles, ne servent à rien. Même si vous donnez votre générosité à fond, même au point de vous sacrifier, de donner votre vie. Comment c'est possible de se sacrifier sans aimer? Une bonne action n'est pas nécessairement la preuve d'une bonne attitude de cœur. Tu peux donner beaucoup pour calmer ta conscience, pour te faire voir ou pour bien te sentir. Tu sais, dans l'histoire, on le sait, beaucoup d'hommes et de femmes ont donné leur vie, mais pas pour aimer, mais pour détruire. Il y a des terroristes qui se sont fait exploser, avec l'idée qu'ils vont gagner le paradis. Il y a des fanatiques qui se sacrifient au nom d'une cause, mais leur cœur est rempli de haine. Un sacrifice sans amour ne vaut rien. Imagine une belle maison, belle façade, fenêtres modernes, toiture parfaite, mais sans fondation. Au premier tremblement de terre, tout s'effondre. L'amour, c'est la fondation. Sans lui, nos dons peuvent être beaux, mais ne tiendront pas. C'est ce que Paul nous dit dans ces trois versets. Toutes les activités, tous les dons que Paul mentionne sont utiles, c'est pas qu'on doit les rejeter. Ne te demande pas d'abord ce que tu fais, mais demande-toi pourquoi tu les fais. Parce que sans amour, tout ce qu'on fait pour Dieu, même ce qui semble impressionnant, devient stérile. Avec l'Évangile, et c'est ce qui est beau, avec l'œuvre de la croix, je n'ai plus besoin de me prouver, je n'ai pas besoin de me montrer devant Dieu. Je sais que Dieu m'a aimé, parfaitement, le premier. Cet amour me libère du regard des autres. Je ne suis pas là pour exister aux yeux des autres, mais je suis là parce que j'ai été touché par la grâce, par l'œuvre de Dieu, et que je suis appelé en retour à aimer, mais pas pour gagner quelque chose. L'amour, c'est la qualité essentielle de notre vie, l'ingrédient de la vie du disciple. J'aimerais souligner une dernière chose dans ces trois versets. Je ne sais pas comment on l'avait vu. Vous avez vu comment Paul parle? Il est très fin, il est très pédagogue. Paul aurait pu taper du poing sur la table. Il avait le droit, les Corinthiens, clairement, il l'aurait mérité, parce que voilà, c'était déréglé. Il n'a pas dit « vous parlez sans amour ». Il n'a pas dit « vous parlez sans amour, vous avez une foi sans amour ». Mais non, il choisit la voie du cœur, il dit « quand je parlerai sans amour, quand j'aurai fait telle ou telle chose, quand je donnerai, c'est le jeu ». Il ne pointe pas du doigt. C'est pas une leçon sèche, pas juste une vérité qui glisse doucement. Il se met dans la peau de celui qui réfléchit et qui s'interroge. Et c'est l'attitude qui doit être la mienne, qui doit être la nôtre. C'est pas « vous ». Ne faites pas cela, mais c'est comment je me place mon cœur. Et si c'était moi? C'est le jeu. C'est le jeu. Paul ne frappe pas fort, il tape juste, il tape au cœur. Ça me permet de m'approprier ce qui est dit. Ce n'est pas le don qui compte, c'est l'amour qui l'anime. Avec l'Évangile, je n'ai plus besoin de me sauver, de m'avancer, de me montrer, parce que je sais que Dieu m'a aimé parfaitement. Il me donne, oui, il me donne une nouvelle motivation qui me porte vers les autres, qui me porte vers lui et non plus vers moi. Quelques applications, du coup. Dans l'Église, ne cherche pas d'abord à faire des choses, mais à aimer les gens. Et c'est ce que je trouve qu'on fait de mieux en mieux. C'est pour ça qu'on a du mal à commencer. À l'heure, on sème, on échange, on prend du temps. C'est l'amour qu'on a les uns avec les autres. À quoi ressemble mon amour pour Dieu et pour les autres? Est-ce que je le fais par devoir? Est-ce que je le fais pour me montrer? Ou je le fais par amour? Alors si tu veux savoir si tu aimes vraiment, ne regarde pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Parce que sans amour, tout ce qu'on fait pour Dieu, même ce qui semble impressionnant, devient stérile et s'écroule. Mais l'amour, lui, se voit, se goûte, se vit, se manifeste. Et c'est ce que justement Paul développe dans la deuxième partie de notre texte. L'amour, ça se voit. C'est l'amour en action. Paul montre dans les versets 4 à 7 le côté concret, observable de l'amour. Ça se vit, ça se manifeste, ça se goûte. Et Paul sort un peu la loupe pour montrer comment l'amour agit concrètement, dans la vraie vie. Et on le voit, hein, versets 4 à 7, c'est pas juste des sentiments, c'est pas juste une émotion, c'est un style de vie. C'est un style de vie. À quoi ça ressemble, cet amour, concrètement? 4 versets. En fait, cet amour qui se vit, c'est ça qui tient l'Église ensemble. C'est ça qui tient des relations ensemble, dans la durée. Petite illustration. Un jour, une femme racontait que son mari ne disait jamais « je t'aime ». Du mal, des fois, nous, les hommes, à dire « je t'aime », à nous exprimer. Mais chaque matin, cet homme faisait son café, lui dégageait la neige de la voiture, réparait ce qui se cassait, etc. Un jour, il lui dit « je te l'ai dit le jour du mariage, mais depuis, je te le montre ». On peut le dire, mais l'amour, ça se montre. Et c'est exactement ce que Paul fait ici. Il nous donne pas une définition abstraite ou théorique de l'amour, il le décrit en acte, et très fort. Il nous dresse un peu un portrait vivant de la personne qui aime. C'est du concret, c'est du incarné. Et ce portrait, pour nous, chrétiens, de longue date, on le sait, il reflète le caractère de Jésus. Paul ne le dit pas explicitement, mais pour nous, c'est assez clair. Si quelqu'un a vécu de cette façon-là, c'est bien Christ. Il regarde le Christ. Il décrit l'amour en chair et en os, le modèle, la source, le miroir. Alors c'est vrai qu'en tant que même personne non chrétienne, on peut avoir de grands gestes d'amour, mais seul Dieu dans le cœur peut produire un tel amour sacrificiel. Parce que c'est le terme agapé, hein, qui est dans ce texte, et comme le dira l'apôtre Jean, l'amour agapé est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce n'est que si on a reçu l'œuvre de Christ qu'on est capable d'aimer de cette façon-là. Paul dira en Romains 5, 5, « L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Si on est capable d'aimer de cette façon-là, c'est parce que le Saint-Esprit habite en nous. Tout le monde sait qu'il faut aimer les autres, mais seul notre Dieu qui œuvre dans nos cœurs peut nous aider à vivre cela. Alors comment cet amour agit ? Paul, il décrit une série d'attitudes, hein. On n'a pas le temps ce matin de les étudier en détail. La difficulté, c'est pas de les comprendre. La difficulté, c'est de les vivre. Je le disais déjà tout à l'heure. Mais j'aimerais simplement relever quelques traits néanmoins. Premièrement, Paul commence par dire que l'amour est patient. Verset 4. Attention, patient, c'est pas juste patient quand je suis dans un bouchon et que je m'énerve pas. Ou c'est attendre à la file du carrefour. Mais le mot grec qui est ici, c'est signifie littéralement prendre du temps avant de se mettre en colère. C'est avoir en fait les nerfs longs à chauffer. On n'est pas quelqu'un de facilement irritable. C'est la capacité d'endurer les gens pénibles sans exploser. Et soyons honnêtes, il faut une bonne dose du Saint-Esprit pour que cela soit vrai. Tu veux tester ton amour ? Tu veux tester ton amour ? Passe une semaine avec quelqu'un de difficile. Et observe ton niveau de patience. Moi, j'étais fatigué lundi. Je travaillais avec une équipe qui avait du mal à travailler. Faut dire, on m'a donné les plus fatigués aussi, mais, j'avais besoin d'une bonne dose de Saint-Esprit. Deuxième élément que Paul évoque, l'amour n'est pas envieux, verset 4, n'est pas jaloux. Il n'envie pas les dons, les réussites ou les bénédictions des autres. C'est pas facile, hein. Moi, je suis tellement facilement dans la comparaison. On l'évoquait quand on s'est formé avec les autres responsables la dernière fois. On est facilement à se comparer aux autres. Avec l'évangile, j'ai pas besoin d'être au centre. C'est Christ. L'amour ne dit pas pourquoi lui et pas moi, mais il dit merci pour lui. L'amour véritable ne rivalise pas. Il le félicite. Il n'est pas envieux. Troisièmement, l'amour ne fait rien de malhonnête. Littéralement, ce serait plutôt, c'est le verset 5, ne se conduit pas de manière indécente, ne fait pas honte aux autres, Il garde, il protège la dignité. Et là, je pense que Paul parle de ce qu'on a vu déjà dans les attitudes des Corinthiens qui faisaient honte aux autres dans leur rassemblement. Hein. Il avait dû reprendre ces riches qui mangeaient sans attendre les autres. Il avait dû reprendre les hommes et les femmes qui se comportaient de façon honteuse dans l'Église au chapitre 11. C'est cela. Ne fait rien de honteux. Quatrièmement, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Verset 5. Ne cherche pas son propre intérêt. Ça prépare le chapitre 14 qu'on verra dimanche prochain. Les Corinthiens étaient centrés sur leur propre croissance personnelle, sur leur propre édification. C'est moi qui est important. Ça, c'est notre défi. C'est mon défi. On pense à soi. J'ai besoin d'être nourri. C'est moi. Par nature, on est tous centrés sur nous-mêmes et notre époque le cultive. On pense à toi, protège-toi, affirme-toi. Jésus nous dit quoi ? Renonce à toi. Sers les autres. Sers-moi. Aime-les jusqu'au bout. L'amour de Dieu n'est pas égocentrique, il est christocentrique, il se donne. Et l'Esprit veut remplacer cet égoïsme par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que chacun de vous, nous dit Paul dans Philippiens, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cinquièmement, Paul nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Fin du verset 5. Littéralement, ne tient pas un registre des torts. Ne comptabilise pas, ne garde pas rancune. C'est l'amour qui ne tient pas un tableau Excel des blessures reçues par les autres. Tu te connais ces phrases, hein? Tu te rappelles la semaine dernière? Tu te rappelles l'année dernière? En 2024? Ou en 2001? L'amour qui ne tient pas rancune. Pas facile, hein? Là, on regarde encore à Jésus-Christ, qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est pas facile, c'est radical. Celui qui a demandé à son Père de pardonner ceux qui l'ont crucifié. Sixièmement, verset 6, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. L'amour n'applaudit pas le mal, ne sourit pas quand quelqu'un chute, ne jubile pas quand la vengeance frappe. Non, l'amour se réjouit de la vérité, de ce qui est juste. C'est chercher le bien réel pour l'autre, même quand c'est difficile à dire. Et enfin, septièmement, et je trouve que c'est là où ça finit de nous mettre à terre, on pourrait dire, Paul finit ce passage avec quatre verbes puissants au verset 7, justement. L'amour pardonne tout, c'est-à-dire il couvre toutes les fautes. L'amour croit tout. C'est-à-dire, il donne sa chance. L'amour espère tout, il ne baisse pas les bras. L'amour supporte tout, il tient bon. Quel mot vous trouvez le plus difficile à vivre ? Moi, c'est le tout qui me dérange. Le tout. On pourrait le traduire littéralement par toujours. L'amour pardonne toujours. L'amour croit toujours. L'amour espère toujours. Supporte toujours. En d'autres termes, l'amour est toujours prêt à accorder une nouvelle chance. J'accorde si souvent une nouvelle chance aux autres. C'est l'amour qui n'enferme pas l'autre dans son péché ou dans un comportement où on se dit, il n'y a aucune chance, aucune amélioration n'est possible. C'est un amour qui reste ouvert, qui est toujours prêt à croire qu'un changement est possible, même après un énième recommencement. L'amour qui est animé par un souci constant du bien de l'autre, avec cette conviction que ce qu'on est aujourd'hui ne sera pas demain. C'est ça la foi. L'amour voit les failles, l'amour voit les choses qui vont pas, mais choisit de croire encore et encore. L'amour prend des coups, mais reste debout et ne perd jamais espoir. Toujours. Pardonne toujours. Espère toujours. Wow. Or, cet amour-là nous complique un peu la vie chrétienne. C'est pas juste être gentil, c'est pas juste cocher des cases, c'est profondément radical, c'est profondément surnaturel, c'est profond quoi. Et pour cela, il faut une nouvelle nature, il nous faut un nouveau cœur, il faut que Dieu agisse en nous. On ne peut pas imiter cet amour, on ne peut pas le contrefaire, on a besoin que nos cœurs soient remplis de l'exemple parfait de Christ. On ne peut pas juste mettre un costume, une façade. Et quand on est devant les autres, et l'enlever une fois à la maison. Non, l'amour biblique, c'est le cœur qui a besoin d'être changé. On ne peut pas imiter cet amour-là. Alors j'aimerais nous poser ces questions pour cette semaine. Hein. Est-ce que mon amour se voit dans mes réactions? Lorsque, pour la énième fois, je dois reprendre mon fils. Est-ce que les autres se sentent aimés quand ils me côtoient? Quelles sont les choses du quotidien peut-être qui favorisent, qui augmentent mon amour pour Christ, mon amour pour les autres, les lieux, les pratiques, les objets, les décisions qui m'alimentent? Ou qu'est-ce qui l'étouffe? Qu'est-ce qui étouffe mon amour pour les autres? Qu'est-ce qui étouffe mon amour pour Dieu? Paul, il est très concret, hein. Dans ce passage, il est très beau. C'est un amour visible, un amour qui change une vie, qu'on ne peut pas aimer naturellement, on a besoin de Dieu. C'est Dieu qui le produit en nous, par son esprit, qui l'inscrit dans nos cœurs. Et ça, c'est toute la nouveauté de la nouvelle alliance, de sa vie nouvelle avec nous. Paul dira dans Romains 5, 5, l'amour de Dieu a été répandu dans notre... Répandu, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, répandu. Hein. C'est pas juste versé, c'est répandu par le Saint-Esprit. D'ailleurs, il y a un lien très fort, hein, entre ce passage et les fruits de l'Esprit qu'on peut voir dans Galates 5. Alors la question ce matin, c'est pas est-ce que je ressens de l'amour, mais est-ce que l'amour de Christ se voit dans ma vie, dans la façon dont j'aime les autres? Pas facile, hein. Ça nous appelle au dernier point, l'amour pour toujours, ou ne meurt jamais. Paul fait ressortir ici la dimension éternelle de l'amour, plus grand que les dons, versets 8 à 13. On a vu que tout s'écroule sans amour. On a vu que l'amour, ça se voit, ça s'incarne, ça se goûte, ça se vit. La patience, la bienveillance, l'humilité, mais voici la deuxième raison pour laquelle l'amour est le meilleur. Parce que l'amour, lui, ne meurt jamais. Il y a un caractère permanent à ce don. Il est le seul don éternel. Tu entends ça? Paul le dit clairement, l'amour ne faiblit pas, ne disparaît pas, ne sera jamais aboli, ne périra jamais, nous dit littéralement le texte. Verset 8, les dons passent, mais l'amour reste. Paul établit un contraste brutal. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Tous les dons spirituels sont précieux, oui, mais ils sont temporaires. C'est comme des outils de chantier, utiles pendant la construction, mais on les pose quand la maison est terminée. Une allumette, c'est indispensable pour allumer un feu. Mais une fois que le feu est là, on jette l'allumette, on la garde pas. Les dons, c'est comme ça, pour rallumer le feu de l'Église. Mais ce qui est appelé à brûler pour l'éternité, c'est l'amour. Les dons, c'est ce que Dieu nous donne pour le voyage ici-bas. Et l'espérance, c'est l'amour qui dure. Et c'est là que les membres de l'Église de Corinthe se trompaient. Il mettait certains dons en haut du tableau. Ça, c'est important. Et Paul leur dit non, oui, ils sont impressionnants, mais ils sont provisoires. Et Paul va encore plus loin. Il dit non seulement les dons sont temporaires, temporaires, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura une fin, mais en plus, ils sont incomplets. Verset 9, ces dons sont partiels, incomplets. Nous connaissons partiellement. Et il utilise une image, hein, du miroir notamment. C'est comme regarder dans un miroir ancien, un miroir antique. Ce que tu vois est réel, mais flou. Tu vois, mais c'est pas encore clairement. Tu discernes, mais c'est pas encore tout à fait comme cela devrait être. Et Paul enchaîne en utilisant trois expressions pour montrer que c'est temporaire, que c'est incomplet. Maintenant, c'est partiel, mais bientôt, il dit quoi? Ce sera complet. Il dit maintenant, c'est l'enfant, mais ensuite, ce sera l'adulte. Maintenant, c'est face à un miroir, mais bientôt, ce sera face à face. Quand Jésus reviendra, on le verra tel qu'il est. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il incarne l'amour. Et nous serons rendus semblables à lui. Alors tout le reste s'effacera, sauf l'amour. Paul n'est pas en train de dire que les dons sont mauvais, il dit juste, ce ne sont pas des preuves de maturité spirituelle. Tu veux prêcher, tu veux prophétiser, tu veux parler en langue, tu veux faire beaucoup de choses, tu veux avoir des visions. Mais ça ne veut pas dire que tu as grandi spirituellement. Les vrais signes de maturité, c'est quoi? Ce sont la foi, l'espérance et l'amour. Je le redis, hein, mais les chrétiens idolâtraient les dons. mais négligeait ce qui compte le plus, le cœur, l'amour, la ressemblance à Jésus. C'est comme si tu t'accrochais désespérément à l'allumette au lieu de voir le feu qui a été allumé. Et Paul termine en apothéose, ce verset 13, chapitre 13 avec le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Pourquoi il dit cela? Parce que la foi, c'est croire sans voir. Au ciel, on verra Dieu. L'espérance, c'est attendre ce qu'on n'a pas encore. On n'est pas encore en pleinement possession de notre trésor céleste, mais au ciel, on l'aura. Et l'amour restera. Il remplira tout. L'amour, ce sera l'atmosphère que nous aurons au ciel. Imagine un monde où l'amour est parfait, sans filtre, sans fatigue, sans blessure, sans rupture. En fait, c'est ça le ciel. C'est comme ça que décrit la parole de Dieu le ciel, l'avenir. L'amour, c'est le seul don qu'on exercera dans l'éternité, ce don permanent, parfait, pleinement vécu, là où il y a le trône de grâce, le trône éternel, le siège de l'amour. Nous verrons Christ, l'amour incarné, le rayonnement de la gloire de Dieu. Et parce que tout péché, toute trace d'impureté, de souillure aura disparu, on aimera Dieu, quoi ? Parfaitement. On aimera les autres, quoi ? Parfaitement. Transformés à son image. Nous partagerons sa beauté, sa perfection, sa sainteté. Nous serons ses rachetés. Nous vivrons l'amour parfait. Fini les comparaisons. Fini les jalousies, fini les rivalités, fini la peur de ce que les autres vont penser. Alors oui, on le disait aujourd'hui, aimer est encore bien parfois difficile. Notre nature lutte, ça tiraille dans tous les sens. On manque de savoir-faire, on oublie d'aimer, on hésite, on a peur, les mots nous manquent. Parfois on aimerait aimer quelqu'un, mais on n'arrive pas. Enfin, en tout cas pour moi. On ne sait pas comment s'y prendre. Mais au ciel, tout sera naturel. Tout sera naturel. L'amour ne sera plus un effort. Il sera rendu parfait. Il sera notre souffle. L'amour pour toujours. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que si l'amour reste, demeure éternellement, ça voudrait dire que Dieu veut qu'on investisse là-dedans. Tu veux progresser spirituellement? Tu veux grandir avec Dieu? Ne cherche pas simplement plus de dons, mais cherche plus la ressemblance du caractère de Christ. Cherche à aimer mieux, à aimer plus, à aimer plus longtemps. Quand tu te sens frustré de ne pas tout comprendre, quand tu vois les failles de notre unité, de l'Église, ses défauts, ou que tu vois tes propres failles, rappelle-toi, t'es pas encore au ciel. Mais l'amour, lui, on peut le vivre, on peut l'incarner. C'est déjà une touche du ciel ici-bas. Et un jour, Dieu nous dit, nous verrons face à face. Nous serons transformés par sa présence. J'ai un peu une punchline, comme on dit. On connaît un chrétien mûr, non à la puissance ou au bon emploi de ses dons, mais à la profondeur de son amour. On reconnaît un chrétien mûr à la profondeur de son amour. Alors, 1 Corinthiens 13 est un des plus beaux textes. On voit quoi? Ce que Dieu veut qu'on mette au centre de notre vie, les uns avec les autres, au centre de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle. C'est pas nos dons, c'est pas la puissance de nos dons, c'est pas l'intensité de notre foi, c'est ni la profondeur de notre connaissance, mais la qualité de notre amour. On a vu que sans amour, tout s'écroule. On voit que l'amour, ça se voit, c'est pas juste un mot, c'est une manière de vivre. On voit surtout que l'amour, ça dure, que c'est le seul don éternel, celui qui s'exercera au ciel. Et c'est un peu un principe que Paul nous laisse souvent. Ce qui est vrai, ce qui est l'état des choses au ciel, ce qui est devant nous devrait déterminer ce qui devrait être vrai dans l'Église. Paul dira souvent, vivez ici-bas, vivez ensemble, comme si vous étiez déjà là-haut avec le Seigneur. En fait, l'Église devrait être un avant-goût du ciel. On apprend à s'aimer, et on l'a dit les semaines précédentes, à s'aimer, à se soutenir, à se porter, à voir la diversité des dons que Dieu donne à l'Église pour notre encouragement, pour notre restauration, pour notre repos, etc. Alors je nous pose cette question, alors si l'amour c'est ce qui dure, est-ce que c'est aussi ce que je cherche à cultiver aujourd'hui, dans ma vie, chaque jour? Pas un amour de façade, un amour conditionnel, un amour divin, inspiré par Dieu. Dieu cherche une église remplie d'amour, remplie de Saint-Esprit. Des chrétiens qui ne cherchent pas d'abord à briller, mais qui cherchent à aimer, comme Christ nous a aimés. Et ça fait le lien, et je terminerai juste par ça, ça fait le lien avec le chant qu'on a, le dernier chant qu'on a chanté, hein. Mais qui peut prétendre vivre ainsi? C'est difficile, hein. On a besoin du Seigneur. Personne. C'est pour cela qu'on a besoin de se rappeler et de se rappeler dimanche après dimanche cette vérité centrale. Cet amour ne peut que venir de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on peut produire nous-mêmes. C'est cet amour qui a été révélé par Christ. Celui qui nous a aimés jusqu'au point de se livrer pour nous. Il est le modèle. Il est la source de notre amour. On prêche pas simplement un amour abstrait. On apprend un amour, on essaye de vivre un amour par son aide, un amour qui s'est incarné dans le concret de nos vies. C'est pas un fardeau, mais c'est le fruit de l'esprit, avec Christ comme modèle et notre source. Alors pour l'amour du ciel, aimons-nous les uns les autres. Amen.